pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Lauriane Rossi, questeur de l'Assemblée nationale, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Bonsoir.
Lauriane Rossi, c'est ce mardi à 20h qu'Emmanuel Macron évoquera la situation sanitaire devant les Français. Qu'attendez-vous du président de la République ?
Cette intervention du président de la République, elle vise déjà et prioritairement à faire un point d'étape sanitaire pour notre pays. Je crois que les Français ont besoin clairement de savoir si les efforts que nous avons collectivement accomplis ces derniers jours, ces dernières semaines, en nous reconfinant, eh bien, ont montré leur efficacité. Les chiffres nous démontrent que c'est le cas, puisque la circulation du virus a fortement ralenti depuis les nouvelles mesures de confinement. Est-ce que cela suffira à assouplir ces règles et à nous redonner plus de liberté à tout un chacun, mais aussi à nos commerces et aux différents acteurs économiques? Ce sera au président de la République de nous le dire, je l'espère, en tout cas évidemment comme chaque citoyen de ce pays. Mais il est difficile à ce stade d'anticiper sur les annonces qui pourront être faites.
Alors, il est difficile d'anticiper, dites-vous. Olivier Véran a récemment évoqué les problèmes psychologiques engendrés par ce deuxième confinement, des problèmes qui ont plusieurs causes, mais j'imagine que l'incertitude dans laquelle nous vivons y est pour beaucoup. Dans ces conditions, est-ce qu'il faut que le président de la République nous donne des perspectives, je dirais, sur un temps plus long ?
Oui, je crois que vous avez employé un mot très juste, le mot incertitude. Je le vois d'ailleurs dans ma circonscription, j'étais encore avant-hier à la Croix-Rouge, au siège de la Croix-Rouge avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Nous sommes allés à la rencontre des personnes qui tiennent le téléphone dans cette cellule téléphonique qui permet de faire face à la détresse, aux appels de bon nombre de nos concitoyens. Et on entend, et évidemment cela doit nous préoccuper, on entend cette inquiétude, cette angoisse face à cet avenir qu'on a du mal tous, tout un chacun à anticiper. Et donc cette incertitude, cette absence de perspective, elle crée beaucoup d'inquiétude et parfois même de l'angoisse, parfois même de la détresse psychologique et parfois même de la dépression chez nos concitoyens, que ce soit les plus âgés ou même les plus jeunes. Et ça doit aussi nous préoccuper, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de jeunes également s'inquiéter, voire même sombrer dans des troubles dépressifs qui doivent vraiment nous préoccuper. Donc j'attends, et je crois que tout le monde attend aussi de cette intervention du président de la République, peut-être un petit peu plus de perspective, même si on conçoit tous que c'est difficile parce que ce virus évolue et que la situation sanitaire est très instable, mais effectivement des perspectives pour les fêtes de fin d'année et pour les semaines qui viennent. Et je crois que en tant que citoyen, mais aussi en tant que commerçant, je pense beaucoup à eux, je crois que c'est important.
Lauriane Rossi, la crise sanitaire a révélé au grand jour les inégalités au sein de la société française. Je pense à ce chiffre terrible donné par le Secours catholique, 10 millions de pauvres en France. Est-ce que le gouvernement doit en faire plus encore en termes de solidarité avec les personnes en situation de précarité ?
Évidemment, je veux rappeler avant toute chose qu'on avait fait de cette lutte contre les inégalités, contre la pauvreté, une priorité dès le début du quinquennat. C'est pour cela qu'on a mis en place beaucoup de mesures, notamment ce grand plan pauvreté de 10 milliards d'euros, avec énormément de mesures sur les places en hébergement d'urgence, sur les aides, qu'on a revalorisées très fortement. Ça, on l'avait fait dès le début du quinquennat. Et puis cette crise sanitaire, ce virus est arrivé, et évidemment, on ne fait qu'accroître et renforcer la précarité, la pauvreté dans certains endroits de notre territoire. Et ça, évidemment, nous le prenons en compte et nous avons souhaité renforcer encore les aides à destination des familles, des foyers, des personnes les plus fragiles. C'est ce que nous avons fait dès le début de la crise en apportant des aides nouvelles aux bénéficiaires du RSA, je le rappelle, 150 euros en plus pour tous les bénéficiaires du RSA et 100 euros en plus pour les personnes éligibles aux APL. Et pour les étudiants, nous avons fait la même chose. Nous avons mis en place une aide de 150 euros pour tous les étudiants boursiers et pour tous les jeunes qui ne sont pas étudiants, mais qui sont éligibles à l'APL. Et cette aide, elle est versée, ces aides sont versées automatiquement. Pour les étudiants, ça arrive automatiquement dès le 1er décembre. Nous avons renforcé aussi les places d'hébergement d'urgence pour les personnes, évidemment, qui sont à la rue, pour les femmes sans domicile, victimes de violences. Voilà, beaucoup de mesures qui qui évidemment doivent venir en soutien, en secours aux personnes les plus en difficulté. Et je le vois en Ile-de-France et y compris dans mon département, les inégalités se creusent depuis maintenant plus de 10 ans. Et ça n'est pas normal, il faut qu'on arrive à résorber ces inégalités, c'est tout le sens de notre action, de mon action aussi dans mon département.
Lauriane Rossi, c'est le 9 décembre que sera présenté le projet de loi confortant les principes républicains. Il est destiné à lutter contre l'islam radical et les séparatismes. Ce projet de loi vous paraît nécessaire aujourd'hui ?
Oui, je crois que, vous savez, on a un principe essentiel, fondamental, constitutionnel hein, dans notre République, qui est la laïcité. Je ne pense pas qu'il faille retoucher ce principe-là, il est extrêmement clair, c'est-à-dire que c'est une liberté qui est affirmée, consacrée dans notre droit, dans notre état de droit, qui est cette liberté de croire ou de ne pas croire, mais aussi de pouvoir exercer son culte librement. Mais on a pu voir ces dernières années, ces dernières décennies, des entorses de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves faites à ce principe de laïcité. Parce que parfois il est méconnu et parfois il est... instrumentalisé et bafoué volontairement par certaines associations ou groupuscules qui préfèrent faire primer des lois religieuses sur les lois de la République. Et ça n'est pas acceptable. Donc je crois qu'il faut qu'on fixe dans notre droit de nouvelles règles qui réaffirment très clairement ce principe de laïcité et surtout la laïcité dans les services publics. Moi, je change beaucoup avec les agents du service public, que ce soit des collectivités, de l'éducation nationale, et beaucoup me disent voilà, qu'ils ont du mal à se sentir soutenus par le droit pour faire appliquer ces règles-là, et je crois que c'est notre devoir d'élu, de responsable public, de réaffirmer ça. C'est tout simplement réaffirmer la République et réaffirmer ce principe liberté, égalité, fraternité dans notre pays. Donc nous allons poser ces règles, le texte de loi nous ne l'avons pas encore, hein. Il sera présenté le 9 décembre en Conseil des ministres, mais nous voyons bien d'ores et déjà les mesures qui seront dans ce texte, et encore une fois ce n'est pas un texte qui vise à stigmatiser, je veux être vraiment très claire là-dessus. Je sais que la plupart des Français de confession musulmane dans ce pays sont profondément républicains, mais on a quelques dérives qu'il nous faut pouvoir encadrer, et c'est notre rôle, notre devoir, si nous voulons préserver le socle républicain.
Lauriane Rossi, mercredi, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences contre les femmes. Un an après le Grenelle contre les violences conjugales, avez-vous le sentiment que le sujet a évolué favorablement ? Les bracelets anti-rapprochement ont été mis en service il y a quelques semaines.
Oui, vous savez, on a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes une priorité de ce quinquennat. C'est la grande cause de ce quinquennat que rappelle régulièrement le président de la République et que la majorité parlementaire, dont je fais partie, s'est emparée dès 2017. On a voté beaucoup de mesures pour justement remédier à ces inégalités, à ces violences. Vous avez cité le bracelet électronique qui est désormais en vigueur et c'est une avancée majeure. Il y a eu beaucoup d'autres mesures et beaucoup d'argent aussi investi pour lutter contre ces violences et contre ces inégalités, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient sociales. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le sujet des transports pour que les femmes puissent se déplacer en sécurité. Parce que plus d'une sur deux nous disent qu'elles ont peur dans les transports en commun, et ça n'est pas acceptable. On a mis en place l'index sur les inégalités de rémunération, il est mis en œuvre depuis le mois de mars dernier. On a désormais des chiffres officiels sur ces inégalités, ce qui nous permet de mieux lutter contre ces écarts de rémunération. Et puis ce délit d'outrage sexiste, eh bien, bon nombre d'autres mesures qui vont dans ce sens-là. Il faut continuer parce que le chemin il est encore long vers cette égalité. Et contre les violences, évidemment, là, c'est mettre fin tout simplement à l'impunité face aux conjoints violents. Et nous continuerons, nous l'avons fait avec les bracelets électroniques, nous continuerons évidemment dans le cadre de la réforme de la justice qui arrive. Et évidemment sur la mise à l'abri des femmes, et ça c'est une priorité, c'est-à-dire une femme victime de violence doit pouvoir être mise à l'abri tout de suite. C'est ce que nous faisons avec de nouvelles places en hébergement d'urgence et puis surtout un droit devoir d'éloigner le conjoint violent et de pouvoir aussi laisser les femmes à l'abri dans leur propre logement.
Vous avez évoqué la question des transports via la loi sur les mobilités. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une disposition dont vous êtes à l'origine, l'amendement intitulé « L'arrêt à la demande » ?
Oui, alors dans le cadre de cette loi d'orientation des mobilités, cette grande loi sur les transports que nous avons votée il y a quelques mois et qui se met en œuvre, moi j'ai fait voter plusieurs amendements sur différents sujets, et notamment ce sujet important des arrêts à la demande. Alors, c'est pas très connu et Et je vais vous donner un exemple très précis. Vous êtes une femme, vous prenez le bus la nuit ou le soir, hein, il fait nuit de plus en plus tôt, et le bus fait que ses arrêts ne vous déposent un peu loin de chez vous. Et parfois, vous avez donc un trajet à pied à faire depuis l'arrêt de bus où vous descendez jusqu'à votre domicile, qui longe une rue, un bois, un square pas très fréquenté, et vous vous sentez pas forcément en sécurité. Et bien désormais, grâce à cet amendement que j'ai fait passer, et bien vous avez le droit de demander au chauffeur de vous arrêter là où vous le souhaitez, et pas forcément à l'arrêt de bus prévu sur la ligne. Ce qui vous permet d'être rapproché de votre domicile et finalement d'avoir un trajet à pied à parcourir beaucoup moins important. Et ça, je crois que ça participe aussi d'un sentiment de sécurité. Et jusqu'à présent, ça n'était pas possible. Les chauffeurs ne pouvaient pas, parce que la loi, le droit ne le permettait pas. En Ile-de-France, on avait expérimenté ce dispositif, et bien désormais, il est généralisé et il est tout à fait légal. Voilà, c'est une mesure qui peut paraître petite et anecdotique, et pourtant, elle peut aussi changer un quotidien et rassurer beaucoup de femmes, et d'hommes aussi d'ailleurs, hein, puisque l'insécurité concerne tout le monde, dans le cadre de leurs déplacements dans les transports.
Alors, puisqu'on parle de sécurité, Lauriane Rossi, l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale a été voté vendredi en première lecture à l'Assemblée. Est-ce que le texte tel qu'il a été modifié vous paraît équilibré ? Est-ce que c'en est fini de cette polémique sur la diffusion des images de policiers ?
Oui, je l'espère. J'espère que cette polémique va cesser. Moi, vous savez, je suis toujours très très attentive au respect des libertés fondamentales, des libertés individuelles. Je m'étais abstenue d'ailleurs dans le cadre de la loi Casseur en 2018 parce que j'estimais que justement elle était attentatoire aux libertés. Le Conseil constitutionnel d'ailleurs avait émis le même jugement. Donc j'ai fait le même exercice avec ce texte de loi et cet article 24. On parle de sécurité, mais c'est un équilibre complexe. Il faut évidemment, je crois, mieux protéger ceux qui nous protègent, nos policiers, nos gendarmes, nos forces de l'ordre, mais également être très très attentif et vigilant quand on touche aux libertés individuelles. Cet article 24, à aucun moment, il n'a interdit les citoyens ou la presse de filmer et de diffuser des images de policiers ou de gendarmes en intervention. À aucun moment. Ce qu'il dit, c'est que toutes les images, en revanche, des visages des policiers et des gendarmes qui seront ou seraient utilisées à des fins de menaces ou de violences, en tout cas avec une volonté de nuire à nos forces de l'ordre, qui restent des citoyens, des hommes et des femmes avec des familles et évidemment une vie privée, eh bien ça doit être puni et répréhensible. Et aujourd'hui, il y a une forme d'impunité. Je crois qu'il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. On le voit bien, que ce soit sur Twitter, Facebook ou d'autres réseaux sociaux. Vous pouvez, avec un tweet, avec un post, et une image, une photo à l'appui, jeter en pâture l'identité de quelqu'un et s'en prendre à lui ou à elle avec parfois des injures, des menaces, voire même des passages à l'acte. Et je crois que l'actualité récente nous le démontre. Il nous fallait, en tant qu'élus, encadrer tout ça. C'est ça que vise cet article 24, c'est cette interdiction de nuire, à nos forces de l'ordre. Et moi, je vous le dis, j'espère finalement que cette disposition, elle sera étendue à tout un chacun. Parce que je crois que tout Français a le droit aussi d'être protégé par rapport à ça. Au-delà du drame que nous avons vécu autour du meurtre de Samuel Paty, il nous faudra aussi protéger nos enseignants. Je crois que tout citoyen a droit à cette protection. Donc on a souhaité réécrire un peu mieux cet article 24 hier soir à l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté sur cet article et sur les droits de la presse qui sont vraiment préservés. Et là, je crois qu'on est arrivé sur un article très équilibré qui permet vraiment de protéger, encore une fois, ceux qui nous protègent.
Lauriane Rossi, il y a un certain nombre de critiques dans l'opposition au sujet des aides accordées aux entreprises dans le cadre du plan de relance. Est-ce qu'il faut imposer des conditions à ces aides ?
Ces aides, elles sont massives, elles sont énormes. Ce sont les aides de soutien qu'on a mises en place pour les entreprises, pour les collectivités, pour sauver les emplois, hein, c'est la priorité. C'est à peu près 400 milliards d'euros. Et puis, il y a le plan de relance qui là vise à relancer l'économie, c'est 100 milliards. Donc au total, 500 milliards d'euros. C'est énorme, et c'est l'argent des Français, c'est l'argent des contribuables. Donc il n'y a aucun tabou, et je trouve ça tout à fait normal qu'on se pose la question de savoir quelle est l'efficacité de ces aides, et combien d'emplois elles permettent de préserver, combien d'emplois elles permettent de créer, est-ce que ces aides permettent de décarboner l'économie ? On a fait cette promesse d'aller vers une croissance plus verte et d'aller vers de la transition écologique, eh bien, est-ce que ces milliards d'euros permettent cela et est-ce que ces milliards d'euros permettent d'avoir une gouvernance plus saine des entreprises ? Voilà, trois questions majeures, l'emploi, l'écologie, la gouvernance, et je crois que c'est tout à fait sain de se poser ces questions-là. Et donc, j'ai souhaité, avec d'autres parlementaires, installer à l'Assemblée nationale une mission d'information parlementaires qui travaillent justement sur ce sujet-là, sur l'efficacité de ces aides publiques, de cet argent public que nous donnons, et c'est bien normal, aux entreprises, aux collectivités, pour justement les aider à faire face à la crise. Il faut qu'on puisse se projeter quand même sur le moyen et le long terme, même si c'est difficile maintenant, parce que ces entreprises, elles sont dans la survie. Aujourd'hui, elles tentent de survivre et de sauver les emplois. Et c'est tout à leur honneur, il faut les aider. Mais il faut aussi les accompagner vers l'avenir et se poser les bonnes questions en termes de création d'emplois, en termes de transition écologique et de gouvernance. Et c'est donc tout l'enjeu de cette mission. Là, nous auditionnons toutes les fédérations professionnelles, tous secteurs confondus, les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, pour nous nourrir de ce qu'ils ont à nous dire. Et ensuite, nous ferons un rapport et des propositions très claires dans les semaines et les mois qui viennent sur ce sujet-là, qui servira d'ailleurs aussi bien à cette crise, mais à d'autres dispositifs. Je crois que on s'est posé beaucoup de questions aussi sur le CICE, donc il faut qu'on puisse avancer sur l'efficacité de l'aide publique.
Lauriane Rossi, vous vous intéressez en tant que parlementaire aux nuisances sonores. Ça n'est pas un sujet anecdotique, puisque dans certaines villes, le bruit des motos, par exemple, est un vrai sujet. Est-ce que l'Assemblée va légiférer sur un sujet pareil ?
Alors, le bruit est un élément qui empoisonne malheureusement le quotidien d'énormément d'habitants de notre pays. Et moi, je le vois en Ile-de-France, je le vois dans mon département, dans mes villes, à Bagneux, Malakoff, Montrouge. Cette pollution sonore, elle est malheureusement trop souvent oubliée des politiques publiques. On parle beaucoup de pollution de l'air, et c'est bien normal, il y a un véritable enjeu climatique. Mais il y a aussi une pollution sonore qu'il nous faut mieux prendre en compte. Qu'elle soit liée au transport, qu'elle soit liée au bruit de voisinage, aux activités industrielles, il y a différentes sources liées au bruit. Et moi, j'en ai fait un vrai combat depuis le début de mon mandat en tant que parlementaire, mais aussi en tant que présidente du Conseil national du bruit, puisque j'ai l'honneur de présider cette instance. J'ai fait passer des amendements. Donc, on a acté et voté des avancées législatives qui vont dans le bon sens. On a consacré le terme de pollution sonore dans la loi. J'ai fait intégrer les pics, la fréquence et la répétitivité du bruit dans le calcul de la gêne sonore il y a quelques mois. On a fait voter l'expérimentation des radars sonores qui permettront, je l'espère, dans quelques mois, de mieux sanctionner les deux roues les plus bruyants et les voitures les plus bruyantes. Ça, c'est en expérimentation. Mais il faut continuer. Il faut continuer pour faire en sorte que ce bruit, cette pollution sonore, soit enfin mieux prise en compte, donc mieux mesurée, mieux contrôler et mieux sanctionner. Il faut soulager aussi nos forces de police qui malheureusement, parce qu'elles sont très sollicitées par ailleurs, n'ont pas toujours le temps de traiter cette problématique et trouver d'autres acteurs, d'autres moyens de contrôler et de sanctionner. C'est ce à quoi je travaille activement et j'aurai, je pense, dans les semaines qui viennent, des initiatives à proposer sur le sujet.
On peut agir notamment sur le bruit des avions avec les villes proches des aéroports.
Oui, concernant les avions, on y travaille activement. Alors, il y a d'une part les engagements, vous me demandiez tout à l'heure, par rapport aux aides, les conditions qu'on pouvait poser. Typiquement, quand j'échange avec les acteurs de l'aérien, je leur demande, on leur demande, le gouvernement aussi, de s'engager sur des flottes aériennes, des avions moins bruyants. Donc on travaille sur le moteur des avions, sur les carburants des avions pour que ce soit moins bruyant. On travaille sur les trajectoires empruntées par les avions, sur des mesures de couvre-feu notamment aussi. On peut imaginer qu'à certains horaires, notamment la nuit, les avions cessent de voler. On a, rappelons-le aussi, mis fin à toutes les liaisons aériennes de moins de 2h30 quand elles sont possibles par le train. Donc ça aussi, ça participe à réduire finalement le nombre de flux, de trajets aériens. Et puis, je travaille aussi sur l'isolation des logements. Comment mieux isoler les logements du bruit ? Parce qu'il faut réduire le bruit à la source, mais aussi pouvoir y remédier en aval. Donc voilà, autant de solutions sur lesquelles nous travaillons. Et puis pour les deux roues, là aussi, les radars, c'est une solution. Mais nous travaillons aussi sur le contrôle technique des deux roues, sur l'interdiction de la pose de certains pots d'échappement qui font énormément de bruit, et sur un meilleur contrôle, évidemment, du bruit par nos forces de police. Donc là aussi, beaucoup d'idées sur la table, et ça avance.
Merci, Lauriane Rossi. Je rappelle que vous êtes questeur de l'Assemblée nationale et députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.